Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Soir, deux heures d'infos, de débats et de réflexions. Et ce soir, on s'intéressera au vaccin anti-Covid. Les EHPAD devraient en profiter les premiers, c'est la recommandation faite par la Haute Autorité de Santé. Ça concerne 750 000 seniors, alors comment tout cela va-t-il s'organiser? On en parlera avec Romain Gisolma, le patron de l'association des directeurs au service des personnes âgées. 18h30, le débat des grandes voix, le gouvernement, ça y est, fait marche arrière sur le fameux article 24, on en parlera. 19h15, le Club des idées, grand débat ce soir sur le blues des cadres. Le télétravail ne leur réussit pas, visiblement. Alors comment retrouver le chemin du bonheur au travail? Vaste débat, on en parlera avec nos invités. Voilà pour le programme. D'abord le journal avec l'info. Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Dès cet après-midi, nous nous remettons au travail pour proposer une nouvelle écriture complète de ce dispositif.
L'article 24, sous le feu des critiques, sera finalement complètement réécrit, annonce cet après-midi des chefs de groupe de la majorité parlementaire.
Oui, la majorité qui prend acte de l'incompréhension de l'opinion publique et des journalistes.
Alors que Gérald Darmanin est entendu ce soir devant la commission des lois de l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur interrogé notamment sur les violences commises par les forces de l'ordre ces derniers jours.
Le plan de vaccination contre la Covid-19 se dessine.
La Haute Autorité de Santé a dévoilé ce matin de nouvelles préconisations.
Et donc priorité aux résidents des EHPAD.
D'entrée, Nicolas Sarkozy. Sarkozy dénonce des infamies à l'ouverture de son procès dans l'affaire des écoutes.
Dans le Vendée Globe, Kevin Escoffier a déclenché sa balise de détresse, victime d'une voie d'eau. On prendra de ses nouvelles.
Et puis un letellier, sinon rien, sous le sapin cette année, s'il vous plaît. Le nouveau Goncourt qui vous tiendra en haleine. Promesse de notre spécialiste Nicolas Carreau. La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 1,42% à 5518 points. La Bourse qui réussit son meilleur mois depuis 30 ans grâce aux résultats des candidats vaccins contre le Covid.
Et puis un coup d'œil dans la tendance météo avec Anissa. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Attention, prudence, 4 départements placés en vigilance orange.
Oui, à partir de maintenant et jusqu'à demain matin, nous avons donc 4 départements du nord-est placés en vigilance orange, neige, verglas. Demain, une perturbation va traverser le pays. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les personnes âgées des EHPAD doivent être vaccinées en priorité. C'est donc ce que dit aujourd'hui la Haute Autorité de Santé.
Qui préconise un plan en plusieurs phases. Car dans un premier temps, il n'y aura pas de vaccin évidemment pour tout le monde. Anne Le Gall, il faut donc établir des priorités.
Voilà, et donc un peu moins d'1 million de Français seulement seront vaccinés à partir de janvier avec les premières doses qui obtiendront une autorisation de mise sur le marché. Ces Français prioritaires, ce sont les résidents des EHPAD, car leur âge et leur vie en collectivité les exposent plus que les autres au virus et au risque de formes graves. Les chiffres montrent qu'un tiers des victimes du Covid vivaient en maison de retraite. Par ailleurs, le personnel travaillant dans ces EHPAD et qui sont à risque de formes graves eux aussi pourront être vaccinés également en priorité. La HAS recommande que cela se fasse sur la base du volontariat pour le personnel soignant comme pour les personnes âgées.
Et alors, hormis les personnes âgées, qui seront les suivants, Anne, par ordre toujours de priorité ?
Alors, la Haute Autorité de Santé recommande de vacciner ensuite en phase 2 les plus de 75 ans et les personnes âgées fragiles, puis en phase 3, 4 et 5, explique le professeur Jean-Daniel Lelièvre, membre de la HAS et chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Ensuite, cette vaccination sera progressivement élargie aux plus jeunes.
C'est l'âge qui est le déterminant majeur de la sévérité et à partir de 55 ans, tous les 10 ans, le risque devient plus important. Et pour les gens un petit peu plus jeunes, c'est le fait d'avoir des comorbidités, c'est-à-dire d'avoir par exemple du diabète, des maladies cardiovasculaires, etc. Donc tout ça va être pris en compte. C'est un algorithme qui peut paraître un petit peu compliqué, qui a mis du temps à être mis en place, mais c'est pour proposer cette vaccination dans un premier temps où le nombre de vaccins va être limité aux gens qui vont en avoir le plus besoin.
Ces recommandations sont bien sûr susceptibles d'évoluer ensuite en fonction des caractéristiques des vaccins qui arriveront sur le marché, car à ce stade, on ne connaît pas encore ni leur durée de protection, ni s'ils peuvent limiter ou pas la transmission du virus.
Les précisions d'Anne Le Gall du service Société d'Europe 1.
C'est la polémique qui agite la classe politique et les médias, vous le savez, depuis plusieurs jours. Ce soir, la majorité calme le jeu et fait marche arrière sur l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale.
Oui, le fameux article va être complètement réécrit. C'est ce que sont venus dire en chœur tout à l'heure les dirigeants des trois groupes parlementaires de la majorité, Adrien Beck, après un passage à l'Élysée.
Oui, et l'on comprend la rapidité de réaction des dirigeants de la majorité à la tonalité de leur échange avec Emmanuel Macron. Tendu, dit un participant, ambiance fessée collective, raconte un autre. Le chef de l'État, dans une colère froide qui est entrée tout de suite dans le vif du sujet. Cette situation est une coproduction d'erreurs politiques, a taclé Emmanuel Macron. Les présidents de groupe ont donc fait une proposition au chef de l'État, acceptée puis rendue publique tout à l'heure par le patron des marcheurs, Christophe Castaner, ici à l'Assemblée nationale.
Nous savons que des doutes persistent encore. Nous devons éteindre ces doutes. Nous avons le devoir de nous interroger collectivement. Dès cet après-midi, nous nous remettons au travail pour proposer une nouvelle écriture complète de ce dispositif.
Et première réunion ce soir à Matignon. Il s'agit en fait de ne pas perdre la face en retirant ou en suspendant cet article 24. Mais cette réécriture, annoncée en grande pompe, ne changera pas grand-chose au calendrier législatif puisqu'il faudra attendre l'arrivée du texte au Sénat pour réellement le modifier. L'objet aujourd'hui, c'était surtout d'éteindre la polémique. Stylo dans une main, lance à incendie dans l'autre, résume un député. Une réponse politique pour tenter de ne laisser aucune braise.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Un rétropédalage alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'explique ce soir devant la commission des lois du Sénat sur les violences policières de ces derniers jours en France.
Violence contre des migrants, place de la République à Paris, mais aussi contre le producteur de musique, Michel Zecler.
Oui, et dans ce dossier, deux des policiers impliqués dans le passage à tabac sont en détention provisoire. Les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Tous les quatre ont été mis en examen pour violence volontaire.
Des sanctions que le secrétaire général du syndicat de police Alliance, Fabien Van Hemelrijk, juge excessive.
C'est tout simplement scandaleux. C'est-à-dire que la justice, on peut se demander si elle est vraiment indépendante ou pas. Elle a subi la pression médiatique et surtout la pression politique. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi mes collègues devraient être en détention. Ce n'est pas normal. Ils n'ont jamais eu de soucis avec la justice. C'était des fonctionnaires avec des très bons états de service. Certains avaient même plus de 40 félicitations. On les met en détention alors qu'ils n'allaient pas se sauver. Ils n'allaient pas créer un trouble à l'ordre public. Ils n'allaient pas faire pression sur les témoins parce qu'ils n'avaient pas intérêt à le faire. Donc il n'y avait aucune nécessité de les mettre en détention. Dans les commissariats, les collègues sont écœurés. Ils constatent eux-mêmes tous les jours qu'ils interpellent des voyous. Et ces voyous sont sans arrêt laissés libres, voire sous contrôle judiciaire. Et au final, nos deux collègues qui ont assumé certaines fautes, dit-il le procureur, se retrouvent en détention alors qu'ils ne devraient jamais être en détention pour des faits de violence.
Le secrétaire général du syndicat de police Alliance avec Guillaume Bié notait que l'Élysée a appelé une commissaire de police blessée samedi à Paris dans la manifestation. Elle est la plus grièvement atteinte parmi les 98 membres des forces de l'ordre blessés ce jour-là.
Et à 19h, on reviendra donc sur l'audition de Gérald Darmanin qui se déroule donc en ce moment, non pas au Sénat, mais bien à l'Assemblée nationale. Après un faux départ la semaine dernière, le procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes a commencé réellement ce lundi.
Et il a commencé sur les chapeaux de roue pour l'ancien président qui, dès les premières minutes de l'audience, a demandé à prendre la parole, ce qui lui a été accordé, Gladys Laffitte.
Oui, juste après la lecture des infractions qui lui sont reprochées, Nicolas Sarkozy a fait cette déclaration d'un ton grave. Je ne reconnais aucune de ces infamies pour lesquelles on me poursuit depuis 6 ans. Puis il s'est assis à côté de ses co-prévenus et a écouté son avocate. Sans évoquer le fond du dossier pour l'instant, elle a pointé les graves et nombreuses dérives qui ont existé tout au long de la procédure et demande donc son annulation. Dans son viseur, cette enquête menée en parallèle dès 2014 par le parquet national financier pour identifier la taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog de la mise sur écoute de leur ligne téléphonique, taupe toujours non identifiée à ce jour. Une enquête à laquelle la défense n'a eu accès que 6 ans plus tard. Pour l'avocate de Nicolas Sarkozy, c'est tout simplement une violation des droits de la défense. Si nous avions connu cette enquête préliminaire, nous ne serions pas aujourd'hui devant votre tribunal. C'est une tâche pour la justice, une tâche qui a entaché toute cette procédure, a-t-elle conclu en regardant droit dans les yeux les représentants du parquet national financier.
Gladys Laffitte qui suit donc pour Europe 1 ce procès des écoutes. Autre procès, celui de l'ancien chirurgien Joël Le Squarnec devant la cour d'assises de Saintes, accusé de viol et d'agression sexuelle sur 4 victimes mineures. C'est le premier volet judiciaire d'une gigantesque affaire de pédophilie.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal 18h10 avec Isabelle Millet et on parle du plus prestigieux des prix littéraires, celui que les Français généralement s'arrachent, celui qui aura sûrement une très bonne place sous le sapin cette année.
Et oui, le prix Goncourt qui a été décerné à la mi-journée à Hervé Le Tellier pour L'Anomalie, paru chez Gallimard, Nicolas Carreau. Vous l'avez lu, évidemment, c'est un roman passionnant qui raconte l'histoire d'un événement survenu à bord d'un vol entre New York et Paris qui va bouleverser la vie des passagers et la face du monde.
Oui, l'histoire d'un vol Paris-New York qui se passe mal. Très, très mal, des turbulences terribles. Et puis finalement, l'avion se pose, tout va bien. Mais trois mois plus tard, la tour de contrôle de New York repère un avion. Même numéro de vol qu'il y a trois mois, même équipage, même nom de passager. Bizarre, bizarre. On arrête tout le monde et on se rend compte qu'il y a eu une duplication, une copie. Et dans le roman, on suit huit personnages qui ont un double dans le monde et qui essayent de gérer ça. Et chaque personnage correspond à un style littéraire. C'est virtuose, c'est cette alliance d'exigences littéraires et d'intrigues grand public qu'a sans doute voulu récompenser le prix Goncourt, Hervé Le Tellier.
Je suis très heureux qu'on dise ça de ce livre parce que j'ai toujours aimé des livres qui avaient ces deux aspects. Il n'y a pas de contradiction pour moi entre le fait de faire de la littérature et d'accéder à une littérature populaire. C'est possible de faire les deux.
Et puis il y a une mise en abîme assez incroyable dans ce roman. L'un des personnages est un écrivain confronté subitement à un gigantesque succès littéraire avec un livre intitulé L'Anomalie.
Je suis vraiment très très heureux. C'est évidemment pour un auteur, mais décisif, de voir qu'on passe d'un lectorat comme j'avais auparavant de 10 à 15 000 à un lectorat qui va sans doute atteindre plusieurs centaines de milliers. C'est très très différent.
En moyenne, effectivement, un prix Goncourt se vend aux alentours de 400 000 exemplaires.
Et là, ça sort pile au bon moment, juste avant Noël.
C'est génial ce bouquin.
Je vais l'acheter. Vous savez ce que non, je vais me le faire offrir.
Maurice Genevoix, en 1926, s'était acheté une maison de campagne avec son Goncourt. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les Goncourts.
Voilà, mais... Il va pouvoir se faire plusieurs maisons de campagne. Je pense
il paraît que ça rapporte énormément, effectivement.
Merci Nicolas Carreau. Le prix Renaudot a lui été décerné à Marie-Hélène Lafont pour Histoire du fils chez Buchet-Chastel.
Le Vendée Globe, inquiétude pour Kevin Escoffier qui pointait en troisième position au moment où il a déclenché sa balise de détresse, Corinne Boulou.
Oui, c'est une voie d'eau, une importante voie d'eau à bord de son monocoque PRB qui a poussé Kevin Escoffier à déclencher vers 15h sa balise de détresse, demandant assistance. Le Malouin de 40 ans, navigateur expérimenté, progressait alors à bonne allure dans les 40e rugissants de l'Atlantique Sud vers la longitude du Cap de Bonne-Espérance. Kevin Escoffier a juste eu le temps de prévenir son équipe de cette avarie majeure avant un silence radio pesant de quelques heures. La direction de course alertée a aussitôt demandé à Jean Le Cam de se dérouter vers la position du marin en détresse. Le Cam n'était alors qu'à une cinquantaine de kilomètres du tableau arrière de PRB. Et le soulagement est venu du doyen de la course qui, une fois sur zone, a pu apercevoir Kevin Escoffier sur son radeau de survie. Ce qui veut dire qu'il n'était plus en sécurité sur son voilier, peut-être en train de couler. Le sauvetage de Kevin Escoffier est donc en cours dans une mer chaotique avec des creux probablement de 4 à 5 mètres. Sachez que Jean Le Cam a vécu une scène similaire dans le passé lors du Vendée Globe 2008-2009. C'est lui, à l'époque, qui avait été sauvé par Vincent Rioux, qui l'avait pris à son bord au terme d'une opération de récupération périlleuse.
Merci beaucoup Corinne Boulou, on suivra ça bien sûr. C'est Corinne de service des sports d'Europe 1.
Et puis un mot de Formule 1 avec le miraculé du week-end, Romain Grosjean qui devrait sortir de l'hôpital dans les prochaines heures.
Oui, après avoir soigné ses blessures et ses brûlures aux mains consécutives à son spectaculaire accident au Grand Prix de Bahreïn, il est forfait pour le prochain Grand Prix.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 18h30 pour le rappel des titres et 19h pour le Grand Journal. La météo avec Anissa qui nous a rejoint. Attention, prudence, une vigilance est lancée dans les prochaines heures dans le nord-est,
oui.
Chère Anissa.
Dès maintenant, effectivement, Julien, et jusqu'à demain matin sur les Ardennes, la Meuse, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, quatre départements donc placés en vigilance orange, neige, verglas. Pour cette fin de journée sur ces départements, nous avons déjà des pluies verglaçantes et puis des chutes de neige prévues en plaine. De la neige qui ne tiendra pas vraiment, en fait, les sols seront blancs à partir de 500 mètres d'altitude. Demain, nous avons une perturbation qui va traverser le pays. Des Landes jusqu'à l'Alsace, le ciel est couvert avec des précipitations. Au bord de la Méditerranée, là, le temps est sec, ensoleillé. Mais attention, Mistral et Tramontane soufflent. Et puis dans l'après-midi, sur le quart nord-ouest, bonne nouvelle. À l'arrière de la perturbation, le soleil revient demain après-midi. Des Pyrénées aux frontières de l'Est, le ciel est couvert avec des averses. Et puis dans le nord-est, toujours des chutes de neige. Les températures, elles sont toujours fraîches le matin avec moins 4 au Puy-en-Velay, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 2 à Belfort, 0 à Limoges, 3 à Marseille, 5 à Paris et 9 à Dunkerque. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 4 à 16 degrés, 4 pour Strasbourg, 10 à Paris et 16 pour Bastia.
16 pour Bastia, la Corse. Salut à nos amis corses d'ailleurs.
On les embrasse.
Merci, on les embrasse évidemment. Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h20, il est le patron de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Bonsoir Romain Gisolme.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la Haute Autorité de Santé, on le disait dans le journal, a donc remis ses recommandations concernant les publics prioritaires pour la vaccination. Un avis qui était évidemment très attendu. Et ce sont donc les personnes âgées résidant en EHPAD qui devraient en bénéficier en priorité. Cela représente, je parle sous votre contrôle, 750 000 personnes. D'abord, est-ce que vous avez déjà une idée du délai dans lequel pourront débuter ces premières vaccinations?
Alors, a priori, des annonces que nous avons pu avoir là ce matin, ça démarrerait sur la fin d'année, début d'année prochaine.
Fin décembre.
Semble-t-il.
Donc, c'est imminent.
C'est imminent, effectivement, bien qu'il y ait un certain nombre de points à préciser en termes d'organisation, de priorisation, comme vous l'indiquez. Et puis surtout, il va falloir que les campagnes vaccinales qui seraient envisagées soient élargies également aux personnes âgées qui vivent à domicile.
Oui, bien sûr. Est-ce qu'on sait déjà qui pratiquera ces vaccinations? Est-ce que ce sera les personnels soignants, les salariés qui travaillent dans ces EHPAD ou ce sera des médecins extérieurs?
Ça fait partie des éléments qu'il va falloir préciser parce qu'on va être dans la situation d'une primo-vaccination, d'une première vaccination contre le coronavirus. Donc les médecins auront évidemment toute leur part, comme ils l'ont généralement, mais là encore plus probablement dans le cas de ce nouveau vaccin.
Vous savez déjà quel vaccin sera disponible en premier? C'est un peu technique, mais c'est vrai qu'il y a celui de Pfizer dont on a beaucoup parlé. Il y a celui de Moderna qui est peut-être plus simple en termes de logistique, car il ne nécessite pas des réfrigérateurs à moins 70 degrés. Et Moderna a visiblement une longueur d'avance en termes de développement. Est-ce que vous savez déjà quel vaccin sera priorisé pour les personnes âgées?
Pas précisément. Il semble que l'HAS continue de travailler précisément sur les différents types de vaccins qui pourraient être disponibles prochainement. Parce que bien sûr, ça va avoir une incidence, vous avez absolument raison, sur les chaînes de distribution, sur les conditions également de conservation et donc de mise en accès facilité ou pas pour les personnes qui pourraient en avoir besoin.
Est-ce qu'on est prêt en termes de logistique, Romain Gisolme? C'est un énorme défi logistique, ces vaccins. Pour acheminer aux portes des EHPAD des centaines de milliers de doses, ça va être colossal à mettre en place.
Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut prévoir plus précisément quel type de vaccins vont être disponibles. Parce que si on est dans des cas de vaccins à moins 70 degrés en termes de conservation, il est clair que la situation ne va pas être la même que pour les vaccins que nous connaissons tous les ans contre la grippe, qui sont plus simples effectivement à gérer en termes de stockage.
Mais le gouvernement planche déjà là-dessus sur
l'HAS, effectivement, doit apporter des précisions puisqu'elle a donné un premier avis ce matin, mais d'autres avis sont à suivre si j'ai bien entendu les préconisations de la Haute Autorité de Santé. Donc ça fait partie des éléments d'organisation qu'il faut prévoir dans les semaines là, à venir, parce que vous avez raison, fin d'année, début d'année prochaine,
c'est demain. Ce sont des populations qui sont plutôt favorables à l'idée de se vacciner, les personnes âgées qui sont aujourd'hui en EHPAD, où là aussi il y a une réticence comme dans l'opinion publique. On a vu les sondages assez inquiétants d'ailleurs sur le niveau de défiance vis-à-vis des vaccins.
Absolument. C'est dans cela qu'il va falloir accompagner ces campagnes, comme toutes les campagnes de santé publique, d'éléments d'information, de sensibilisation, qu'il va falloir faciliter l'accès pour ceux qui voudront se faire vacciner. Mais il est clair que nous retrouvons dans la population des personnes âgées en établissement et à domicile un échantillon de la population française. Donc il faut faire acte de pédagogie. Pour autant,
les chiffres, c'est 59% des plus de 65 ans, selon le dernier sondage IFOP, qui sont prêts à se faire vacciner.
C'est ce que j'allais vous dire.
C'est une majorité, mais c'est assez peu quand même.
C'est assez peu, mais c'est quand même un public qui est quand même beaucoup plus sensible à la nécessité de la vaccination. Et puis je vous rappelle que c'est le premier public aussi qui est le plus sévèrement touché depuis le début de cette épidémie par effectivement le coronavirus, que ce soit en établissement ou à domicile d'ailleurs.
Romain Gisolme, on en profite pour redonner les statistiques qui sont terrifiantes. Un tiers des décès dus à la Covid sont dans les EHPAD, je crois, avec plus de 16 400 morts. 16 400 morts, c'est cela?
Bien sûr, 16 400 morts de trop, évidemment. Et puis, autant probablement à domicile, puisqu'on a des premiers chiffres pour ce qui concerne les gens qui vivent à domicile, puisqu'il faut toujours se garder en tête que la moitié des personnes âgées qui sont accompagnées le sont aujourd'hui en établissement, et l'autre moitié, là, à domicile. C'est en cela qu'il faut porter une attention tout aussi importante à cette population.
Est-ce qu'il y a des inquiétudes de la part des directeurs des services que vous représentez, des EHPAD, des établissements, des personnes âgées, qui s'inquiètent êtes sûr de possibles effets secondaires? On sait que les seniors sont des personnes à risque, plus susceptibles d'être victimes d'effets secondaires. Est-ce que là-dessus, il y aura des garanties qui seront apportées pour la campagne de vaccination?
Ça fait partie des éléments, effectivement, qu'il faut savoir indiquer très clairement. C'est en cela que si on veut convaincre de l'intérêt de la vaccination et des bénéfices et des risques, oui, il faut indiquer très clairement les résultats des études. Je crois que là aussi, la Haute Autorité de Santé est en train d'établir des comparatifs entre les différentes études, mais il faut faire la lumière sur l'ensemble des éléments qui concernent cette vaccination pour pouvoir convaincre les gens, puisque le président de la République, et ça nous paraît à bon escient, a rappelé qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. Donc, c'est une campagne, effectivement, de sensibilisation et d'information.
Romain Gisol, les résidents des EHPAD en premier lieu, les personnes âgées à domicile, vous en avez parlé dans un deuxième temps, et puis aussi tous les professionnels à risque qui travaillent dans ces EHPAD. Je crois que ça représente plus de 100 000 personnes qui ont 65 ans au moins, ou des, comment on appelle ça, des comorbidités, c'est ça ?
Oui, c'est ça, des polypathologies, des fragilités qui font de ces professionnels, également des publics à risque, de développer des formes graves, effectivement, de la maladie. Et donc, pour lesquels il faut pouvoir faciliter un accès dès lors que là aussi, ces professionnels souhaiteront être vaccinés. Mais là, la difficulté aujourd'hui, et vous me parlez d'inquiétude de la part des directeurs et des directrices, c'est notamment auprès des services à domicile. Parce que si, bien sûr, vacciner les personnes âgées qui vivent en établissement et les professionnels qui les accompagnent prioritairement est un élément favorable, ce qui est inquiétant, c'est que puissent être laissés et oubliés les services à domicile alors qu'ils sont dans la même situation et qu'ils ont déjà été les oubliés de la première vague. Il ne faudrait pas qu'ils le soient de la seconde, d'autant qu'aujourd'hui, un certain nombre de mesures pour lutter contre le coronavirus sont déjà mises en place au sein des établissements et ne le sont pas au sein des services à domicile. Et donc, nous sommes face aujourd'hui à des professionnels qui peuvent être désabusés, des professionnels qui lancent notamment des pétitions pour pouvoir disposer des mêmes dispositifs.
Un dernier point peut-être, Romain Gisol, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont évidemment profiter des libres circulations à partir du 15 décembre pour aller fêter Noël en famille ou se retrouver pour les vacances de fin d'année. Il y a le professeur Salomon qui a suscité la polémique en disant au réveillon de Noël, il faudra que la famille soit dans un coin et que papy et mamie mangent la bûche dans la cuisine. Vous partagez cette mise en garde qui a choqué, hein ?
C'était pour le moins malheureux comme expression, si tant est qu'on s'en tienne au fait que c'était une expression malheureuse. Bien sûr, il faut être très attentif à la situation des personnes âgées.
Les recommandations que vous pouvez donner pour un Noël réussi et
les recommandations, elles vont être celles qui vont d'ailleurs perdurer pour une part, parce que s'il y a arrivé des vaccins, on a bien compris que tout le monde ne serait pas vacciné très prochainement. Et donc d'ailleurs, le président Macron, dans sa dernière allocution, nous rappelait que nous aurions certainement à vivre avec le virus jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à l'été. Donc ça veut dire qu'en fait, la vaccination va être un élément supplémentaire de lutte contre ce virus, mais qu'il va falloir tous collectivement maintenir les gestes de barrière. Et donc, c'est plutôt ça la préconisation qui paraît appropriée aujourd'hui, être resté très attentif, à porter le masque, à rester à distance, à se laver les mains, parce que ça va encore durer quelques mois.
En un mot, on pourrait imaginer de généraliser les tests antigéniques dans les EHPAD. Ce serait une bonne idée ?
Ça fait partie des éléments qui sont développés. Je vous parlais de différentes stratégies qui sont développées au sein des établissements pour lutter contre le coronavirus. L'État a engagé notamment la mise à disposition de tests antigéniques. Ça commence, c'est un élément favorable. Il faut faire la même chose dans les services à domicile. C'est précisément un des exemples qui montre que les services à domicile ne doivent pas être les oubliés de cette seconde vague.
Bien, merci Romain Gisol. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres d'Isabelle Millet à 18h30.
Et la loi sur la sécurité globale en France, la majorité parlementaire va réécrire l'article 24. Elle prend acte de l'incompréhension de l'opinion publique et des journalistes face à cet article qui interdit la diffusion d'images des membres de forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité physique ou psychique. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est actuellement face aux députés entendus sur les violences policières. Les personnes âgées résidentes en EHPAD devraient être vaccinées en priorité, et ce dès l'arrivée des premières doses du vaccin contre le Covid, recommandation de la Haute Autorité de Santé. Des vaccinations qui se feront en 5 phases, toujours sur la base du volontariat. Le gouvernement va apporter un soutien renforcé aux acteurs de la montagne, un dispositif ad hoc pour indemniser les remontées mécaniques qui resteront fermées à Noël. Le prix Goncourt 2020, le plus célèbre des prix littéraires, décerné à Hervé Le Tellier pour L'Anomalie chez Gallimard, le Renaudot à Marie-Hélène Lafont pour Histoire du Fils chez Buchet-Chastel.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 19h pour le journal. Un coup d'œil au temps avec Anissa qui nous a retrouvé. Une journée hivernale au programme demain.
Oui, avec déjà dès ce soir et cette nuit, les Ardennes, la Meuse, la Moselle, Moselle et la Meurthe-et-Moselle, quatre départements donc placés en vigilance orange, neige, verglas. Soyez très prudents ce soir si vous nous écoutez dans le nord-est, puisque ce soir et cette nuit, la région Rhône-Alpes également est concernée par des pluies verglaçantes qui vont tomber. Et puis des chutes de neige également sont prévues pour cette nuit et demain matin. La neige tiendra à partir de 500 mètres d'altitude. Demain matin, nous avons une perturbation qui est présente sur l'ensemble du pays. De la Gironde à l'Alsace, le temps est gris, pluvieux. À l'arrière de la perturbation, sur le nord-ouest et le long de la façade atlantique, le soleil revient demain après-midi. Dans le nord-est, toujours de la neige à partir de 400 mètres. Les températures fraîches encore demain matin. Couvrez-vous, moins 4 à 0 degrés sur le quart nord-est, 2 à 9 partout ailleurs. Et puis au meilleur de la journée, seulement 4 à 16 degrés.
Bah oui, mais en même temps, c'est le 1er décembre demain. Exactement, déjà. Noël. Merci Elsa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, le débat des grandes voix du lundi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Le politologue Pascal Perrineau. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Et Hamda Mostafavi, rédactrice en chef adjointe à l'Express. Bonsoir.
Bonsoir.
Une nouvelle réécriture de l'article 24. Le gouvernement a donc finalement fait marche arrière après des polémiques à répétition. Ce sont les députés de la majorité qui vont revoir l'article en question de fond en comble. Ironie de l'histoire, c'est Christophe Castaner, patron des députés de la majorité, ancien ministre de l'Intérieur, qui l'a dit lors d'un point presse.
Nous allons donc proposer une nouvelle écriture complète de l'article 24 qui devra répondre au double objectif fixé. Cette nouvelle rédaction sera conduite dans le cadre d'un travail collectif aux trois groupes de la majorité. Force est de constater qu'aujourd'hui, le choix légistique que nous avons fait a laissé s'installer un trouble, si ce n'est même la conviction parmi la population que le droit d'informer, que le droit à l'information, que l'exercice même du contrôle légitime des actions de police était menacé.
Voilà, le même Christophe Castaner qui disait l'inverse il y a quelques jours en disant l'article est absolument limpide. Pardon de la familiarité, mais cet article 24 a provoqué un sacré foutoir. Est-ce qu'il n'est pas temps de terminer tout cela, Charles Villeneuve ?
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, moi je pensais que la porte de sortie serait la navette du Parlement, entre l'Assemblée nationale et
le Sénat.
Seuls les parlementaires peuvent le modifier puisque c'est eux qui l'ont voté. Ils l'ont voté, l'article 24. Et c'est vrai que ça prêtait à confusion. Ça, c'est un peu aussi peut-être, je dirais, l'ajout de la patte même du ministre de l'Intérieur là-dessus. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'inverse, si vous voulez, des forces de sécurité comme les gendarmes, gérer le ministère de l'Intérieur, c'est le co-gérer avec les syndicats de policiers, etc. Et certains sont extrêmement intrusifs, justement, et en ont peut-être profité pour inspirer le ministre de l'Intérieur.
Mais ils se sont mis dans la nasse un peu tout ça. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a semé le trouble. Il a d'abord dit qu'il faudrait flouter le visage des policiers, ce qui n'est pas dans l'article. Il a dit ensuite qu'il faudrait une attestation des journalistes pour couvrir les manifestations, ce qui n'est pas dans l'article non plus. Et le lundi 23 novembre, Marlène Schiappa dit carrément ce sera au magistrat de dire si le journaliste doit être condamné. Pascal Perrineau, est-ce qu'il n'est pas le temps d'y mettre fin, cet article 24, et de fermer le banc ?
Alors, s'ils avaient retiré l'article 24, ça aurait été tout de même une retraite dans un contexte de défaite. Ça aurait été peut-être perçu comme une défaite. Là, ils ont choisi la voie de la réécriture, en utilisant d'ailleurs certainement un autre vecteur que la proposition de loi qui avait été déposée. On aurait pu, vient de le dire Charles Villeneuve, utiliser la navette parlementaire. Ça aurait été raisonnable, ça aurait envoyé un signe par rapport au Parlement qui est souvent par ce gouvernement et cet exécutif bien, bien négligé. Ça n'est pas la voie qui a été choisie. Mais il est urgent pour eux de sortir d'un mélange d'amateurisme parce qu'on a l'impression que les principaux acteurs ont à peine lu l'article qu'ils sont censés défendre. Tout ça est assez inquiétant. Et puis, une fois de plus, le gouvernement ne fait entendre plusieurs voix. C'est un gouvernement qui n'est pas du tout uni. C'est un gouvernement polyphonique avec des ministres qui s'affrontent et il faut y mettre
c'est
fin.
C'est la rançon du « en même temps ».
Bien sûr, c'est l'en même temps, mais dans la confusion
extrême. Il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup dans cette affaire, c'est que le principal conseiller juridique, le contre-pouvoir en quelque sorte juridique du gouvernement, n'a pas agi. C'est-à-dire le secrétariat général du gouvernement. En général, ça ne passe pas, si vous voulez, l'entonnoir de secrétariat général du gouvernement. Et là, c'est passé. Moi, c'est mon grand étonnement.
Avec une faute politique de Jean Castex, on en parlait vendredi ici même, hein, qui est
cette commission
extérieure.
Ça, c'est hallucinant.
Et là, il a réussi en 24 heures à se mettre à dos toute sa majorité et les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. Votre point de vue, Amdam Mostafavi?
Oui, je crois qu'ils ont créé beaucoup de confusion, finalement, autour de l'article, plus que sur l'article lui-même. Mmh. Vous le rappeliez tout à l'heure, c'est finalement Darmanin, quand il commence à dire à des journalistes qu'il va falloir demander l'autorisation pour aller dans une manifestation, on sait que la Corporation des journalistes, dont on fait partie, ne va pas laisser passer ce genre de choses sans rien dire. Donc, ça a créé quelque chose d'un peu compliqué, où on se met à opposer policiers contre journalistes, etc. Et là, il fallait maintenant... Je suis d'accord qu'il aurait fallu aussi peut-être faire davantage usage du Parlement, mais ils étaient dans un moment où de toute façon, il fallait ramener le débat sur autre chose. Bientôt, on va se retrouver aussi face à au débat sur la loi sur le séparatisme. Mmh, on peut pas se permettre, le gouvernement ne pouvait pas se permettre de rester là-dedans.
Donc, c'est vrai qu'ils ont réussi à se mettre tout le monde à dos, les journalistes, les ONG, les défenseurs des libertés, le défenseur des droits. Je cite simplement ce qu'a dit Guillaume Roquette, vous le connaissez, directeur de la rédaction du Figaro Magazine sur le plateau d'LCI vendredi, c'est assez cocasse. Il dit « Il n'est pas normal que sur une loi sécuritaire, le gouvernement ait contre lui le Figaro ». Et croyez-moi, ajoute-t-il, signer un texte avec Edoui Plenel ne m'arrive pas tous les jours.
Oui, c'est vrai.
C'est cocasse quand même.
C'est vrai, tout à fait. Mais Pascal Perrineau a fait une remarque qui me paraît importante dans cette affaire, c'est qu'il ne pouvait pas capituler en race campagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tentative sur les sujets régaliens du président de la République par rapport aux prochaines échéances électorales. Il fallait arrimer quand même le centre-droit ou la droite modérée et puis aussi... notamment les seniors, qui constituent un bataillon votant extrêmement puissant. Et ils ne pouvaient pas, donc, pour cette raison, capituler. Moi, j'espérais qu'ils allaient utiliser la navette parce que c'était impliquer complètement les parlementaires. C'est ce qu'on reproche à cet exécutif. Mmh, c'est justement de ne pas assez porter, si vous voulez, leur loi, leur projet de loi, devant le Parlement. Et laisser les parlementaires, justement... Mmh. Discuter, agencer ces projets de loi. Et c'est pour ça que je m'étonnais que le secrétariat général du gouvernement qui fait tous les conseils de ministres, toutes les réunions ministérielles, c'est-à-dire tous les comptes rendus, et qui est très attentif justement au respect de la loi et tout conflit qui peut naître d'une erreur,
mais il n'a rien vu venir. Alors dans un instant, on écoutera Gérald Darmanin qui est auditionné en ce moment par l'Assemblée nationale sur la commission relative aux violences policières. 18h39, vous restez avec nous, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 18h40, le débat des grandes voix du lundi qui se poursuit avec toujours Charles Villeneuve, le politologue Pascal Perrineau et la rédactrice en chef adjointe à l'Express, Amdam Mostafavi. Alors on parle de la réécriture de l'article 24. Le gouvernement a donc finalement fait marche arrière. Ce sont les députés de la majorité qui vont revoir l'article en question de fond en comble. On évoquera dans quelques secondes l'audition en ce moment par les parlementaires de Gérald Darmanin sur la question des violences policières. Mais je voulais simplement terminer sur cette histoire d'article 24. Car le président de la République a réuni aujourd'hui en urgence Jean Castex, Gérald Darmanin, Roselyne Bachelot visiblement et le ministre Dupond-Moretti. Il paraît qu'il a tensé tout le monde. Le Premier ministre qui s'est mis toute la majorité à dos s'est fait tenser, le ministre de l'Intérieur également. Il leur a dit « la situation dans laquelle vous m'avez mise aurait pu être évitée ». Donc c'est le président de la République, Amdam Mostafavi, qui à la fin reprend la main, comme toujours.
Oui, c'est à la fin, c'est Macron qui décide, c'est globalement ce qu'on a compris depuis le début du quinquennat. Mais c'est vrai qu'on est amené à se demander pourquoi il ne fait pas ça en amont. Et c'est sa propre politique, sa fameuse politique du « en même temps » que Charles évoquait tout à l'heure, qui les met dans cette situation. Parce que d'un côté, il met Gérald Darmanin en avant, pour montrer justement qu'il a pris ce virage régalien.
Oui.
Mais dans ces cas-là, on peut pas. C'est difficile de draguer d'un côté le côté de la droite sécuritaire et en même temps de satisfaire tous les députés marcheurs dans leur diversité. C'est difficile de donner.
Mais est-ce qu'il s'est pas fait coincer le président de la République par Gérald Darmanin avec cette histoire d'article 24 qu'il a voulu mettre en avant coûte que coûte, hein. C'est lui qui l'a avancé, qui l'a défendu, qui a tenu le cap.
Mais je pense.
Pascal Perrineau.
Oui, c'est une technique à la Sarkozy. Vous savez, c'est le modèle de l'actuel ministre de l'Intérieur. En effet, c'est le côté fonceur de Darmanin. C'est le côté qui, parfois, d'ailleurs, peut mener à une certaine imprudence, parce qu'il s'est fait tout de même remonter aujourd'hui les bretelles par le président de la République. Mais le président de la République est aussi victime du fait qu'il a beaucoup de mal. Au fond, le macronisme, c'est une aventure un peu solitaire. Mmh. Et 3 ans et demi après la victoire d'Emmanuel Macron, on se dit, mais quelle est l'équipe? Quels sont les hommes et les femmes solides qu'il a pu générer, dont il est entouré? Et souvent, on a du mal à répondre. Donc, dès qu'il y a un problème, eh bien, ça remonte à l'Élysée avec tous les risques et périls de ces remontées verticales.
Ça laissera des traces, cet épisode, dans les relations des uns et des autres. Et est-ce que ça fragilise quand même Gérald Darmanin?
Moi, je trouve que ça favorise la majorité. C'est-à-dire qu'on voit bien, de toute façon, qu'il n'y a pas de consensus de fond dans cette majorité.
Oui.
Et c'est l'illustration de ce qu'on disait, de ce que a rappelé aussi Pascal, notre camarade de l'Express aussi, c'est que en même temps, finalement, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a 2 sensibilités fondamentalement différentes. Et voilà, là, maintenant, avec évidemment cette tôle, parce qu'ils sont en train de prendre une tôle, oui, sur ce plan-là.
Oui.
Hein, et puis, ils laisseront des plumes quand même, parce que c'est un effet quand même assez déplorable, entre nous, soit dit. De voir, parce que une partie de la majorité était en train de lâcher Darmanin avant de le lyncher.
Oui, oui.
Bon. Ça va.
Gérald Darmanin, Charles Villeneuve, ça va vous intéresser, qui est justement, je le disais, auditionné par les députés en ce moment sur l'autre crise, mais qui est aussi en train de devenir une crise politique, la problématique des violences policières et du maintien de l'ordre. On écoute le ministre de l'Intérieur, c'était il y a quelques secondes.
D'abord, il y a une erreur fondamentale que nous avons commis au ministère de l'Intérieur, c'est le peu de formation que nous offrons à nos policiers. Raccourcir la formation initiale, c'est-à-dire la formation quand on embauche un policier, n'était pas une bonne mesure. Parfois, elle se heurte à des réalités. On veut à la fois plus de policiers rapidement. Et effectivement, si on veut des policiers rapidement, eh bien, il faut parfois raccourcir leur formation pour qu'ils soient plus rapidement sur la voie publique. Mais ce n'était pas un bon calcul. C'était une erreur. Être policier tard le soir, dans des quartiers difficiles, ça demande une formation initiale plus importante. C'est ce que j'ai proposé au président de la République cet après-midi.
C'est très fort, ça, ce qu'il dit. C'est très fort parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a parlé vendredi dans le débat du Club des Idées, la formation d'un gardien de la paix en France, c'est 1 an, parfois moins. En Allemagne, par exemple, à Berlin, c'est 3 ans. C'est 3 ans.
Oui, mais le problème de la formation, qui est un véritable problème, par exemple, on a beaucoup parlé de la place de la République parce que, en fait, les policiers, l'essentiel des policiers qui ont été utilisés place de la République ne sont pas faits pour ce type d'opération. Et donc, forcément, il n'était, c'est le moins qu'on puisse dire, pas très à l'aise. Mais enfin, il faudrait voir sur...
Non, mais ça amorce un début d'introspection, quand
bien
même,
sûr,
sur la
bien
police.
Sûr, bien sûr, et on en a besoin. On en a besoin également sur l'IGPN. Est-ce que l'IGPN ne devrait pas... Il suffit de regarder un peu ce qui se passe en Europe.
Oui, en Angleterre, c'est par exemple une commission citoyenne.
Voilà, citoyenne, indépendante. Donc, il faudrait certainement, il faut réfléchir à beaucoup de choses et en profiter pour essayer d'améliorer l'instrument policier. Mais il faudrait voir si parmi les 4 policiers qui sont dans l'objectif à la suite de ce sinistre tabassage, ce sont des hommes qui ont souffert d'un manque de formation. Parce que, si ma mémoire est bonne, il y en a un qui a 44 ans,
oui,
donc sa formation est relativement ancienne.
Oui.
Ou le commissaire qui a fait un croche-pied complètement inapproprié place de la République.
Lui aussi,
c'est un commissaire divisionnaire. Donc, les problèmes de formation ne sont pas les seuls problèmes.
Alors, Amdam Mostafavi,
oui,
sur la réponse face à cette question des violences policières qui ne sont pas structurelles, mais qui sont quand même un problème dans la police française, et la question est toujours taboue.
Oui, oui, non, il fallait que Gérald Darmanin prenne une position ferme quand même sur cette question des violences policières, parce qu'il a, on l'a dit, un petit peu agité quand même... les choses sur l'article 24, sur la question des violences policières, il y a des images extrêmement choquantes. Il faut se rendre compte quand même que dans ce pays, les policiers, en quelques années, ils sont passés de héros à zéro presque. Mmh, mmh. Puisqu'il y a 5 ans, je veux dire, on sortait de la séquence terroriste des attentats de 2015.
On applaudissait les policiers
dans la rue. Après, ils ont été sous une pression très forte avec les gilets jaunes qui ont quand même duré pendant des semaines, des mois. Donc, ils sont tout d'un coup été pris sous une pression maximale, Et on n'a pas forcément pu donner non plus, dans l'immédiat, tous les moyens nécessaires. Donc c'est une profession qui a eu besoin d'être, qui a été mise en avant très rapidement et qui, finalement, aujourd'hui, oui, a besoin d'être se réformée d'une manière ou d'une autre.
Introspection nécessaire, Charles Villeneuve ?
Écoutez, il faut lire les rapports du Sénat sur les forces de sécurité de 2018-2019. Tout est dedans. Tout. Par exemple, sur la formation. La différence entre le gendarme, la formation des gendarmes et la formation du policier. Au niveau du recrutement.
Oui.
Si vous voulez, on a essayé de compenser, si vous voulez, ce qui avait été la suppression d'un certain nombre de postes de la police, en recrutant de manière trop rapide un certain nombre de gens qui n'étaient pas tout à fait au niveau. Et puis, il y a quelque chose de très important, si vous voulez, c'est l'encadrement. Il ne faut pas oublier que dans la gendarmerie, il y a 100 000 hommes, à peu près, un peu plus. La plupart, 80% des officiers viennent de la base. C'est-à-dire, c'était des sous-officiers. Et puis en plus, les gendarmes vivent en caserne. C'est-à-dire, en réalité, s'auto-surveillent en permanence. Et troisième chose très importante, la sécurité publique, c'est un métier.
Oui.
Et d'ailleurs, vous en avez fait la remarque, Pascal. Aller au centre d'Astier où les gendarmes s'entraînent, pendant 6-7 mois, on leur apprend de toute façon à aborder les colonnes de manifestants.
Alors, on continue d'en parler dans quelques secondes, 18h48, alors que l'audition du ministre de l'Intérieur se poursuit. La crise de commandement au sein de la police. Je voudrais vous entendre aussi là-dessus, en référence à ce que vient de dire Charles Villeneuve. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h51, dernière partie du débat des grandes voix du lundi, avec toujours Charles Villeneuve, Pascal Perrino, le politologue, et Hamdam Mostafavi, rédactrice en chef adjointe à l'Express. Et on évoque évidemment cette nouvelle réécriture de l'article 24, et puis l'audition qui se passe en ce moment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et qui fait des annonces. Il annonce une formation renforcée pour les policiers. Il annonce également la généralisation des caméras piétons à partir du 1er juillet. C'était déjà dans les tuyaux, mais il accélère la mise en place du dispositif. Et il dit, le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de divorce aujourd'hui entre la police et la population. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal Perrino ?
Alors écoutez, quand on regarde attentivement les données d'enquête sur l'image de la police, une majorité de Français continue à avoir confiance dans la police. Il y a une dernière enquête qui a été faite par l'IFOP après le déménagement musclé des tentes de la place de la République. Et il y avait à peu près 60% de Français qui faisaient confiance à la police.
C'est une majorité, mais ce n'est pas énorme non plus.
Non, ce n'est pas énorme. Et année après année, depuis quelque temps, en effet, ça a tendance à diminuer. Mais il ne faut pas présenter la population française comme étant en révolte par rapport à sa police. Simplement, certains Français sont inquiets des évolutions de la police, de ces faits divers comme ce tabassage de ce producteur de musique qui donne en effet une image d'une police taraudée par certains démons, d'une police mal encadrée, parce qu'il faut bien voir qu'il y a eu deux temps dans cette affaire.
Oui.
Mais même quand d'autres policiers arrivent avec certains gradés, le tabassage continue sur le trottoir. Donc il y a bien là un problème qui est un problème
Alain
d'encadrement.
Bauer, Alain Bauer, grand spécialiste criminologue de son état, dit que c'est l'esprit de corps qui veut ça. C'est qu'il y a une protection du policier envers ses collègues qui empêche la dénonciation, qui empêche d'agir et à un moment de dire « attention, tu vas trop loin ».
Oui, mais il faut de la discipline. L'esprit de corps n'est pas contradictoire avec la discipline. On parlait tout à l'heure de la gendarmerie. Je suis sûr que la gendarmerie a un esprit de corps.
Oui.
Mais vous n'avez pas cette gestion de la police tout à fait particulière et dans laquelle il y a une espèce de co-gestion entre le ministre et les syndicats et qui considère que la défense de la police, c'est quels que soient les actes des policiers, de les défendre à tout craint.
Oui.
Non,
c'est vrai qu'on
la
a
police...
parfois l'impression qu'il est plutôt secrétaire général d'un syndicat de policiers
tout
que ministre de l'Intérieur.
La police, dans ses représentants, devrait se dire que de temps en temps, un peu d'autocritique, ça fait beaucoup de bien au corps et à l'image du corps de la police.
Madame Mostafavi, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une crise de commandement au sein de la police ?
Oui, je pense. Disons que pour boucler la boucle un peu avec l'article 24, c'est aussi pour ça qu'on voit qu'il est important qu'il y ait un regard extérieur, que les policiers soient filmés, que le jugement vienne de l'extérieur, parce que c'est très difficile de se juger entre soi, même si on a beaucoup critiqué l'IGPN et qu'on sait que le nombre d'enquêtes a augmenté. Mais néanmoins, il faut quand même garder ce regard extérieur parce que entre soi, ça reste difficile.
J'ajoute qu'Emmanuel Macron, en 2017, j'ai retrouvé cette déclaration, disait quand il se passe quelque chose de grave au sein des rangs de la police, il faut que la hiérarchie soit mise en cause. Nous y sommes, Charles Villeneuve.
Oui, c'est vrai. Mais je trouve que, si vous voulez, on va un peu vite sur l'IGPN, parce que l'année dernière, je crois que 39 policiers ont été révoqués, en 2018, 34. Et puis, n'oublions pas que les patrons des enquêtes, soit en flagrance, c'est-à-dire le parquet, ce sont des magistrats. Bon, c'est vrai qu'à la Cour européenne des droits de l'homme et de justice européenne, on dit que le parquet ne sont pas des véritables magistrats, mais enfin, quand il y a une ouverture d'information judiciaire, c'est le juge d'instruction qui conduit l'enquête. Donc, l'IGPN a beaucoup changé, a beaucoup évolué, et ils ne sont pas tellement tendres avec les leurs. Beaucoup plus durs qu'avant. Alors bon, on peut toujours aménager. Moi, je trouve surtout que l'IGPN doit, à travers ses enquêtes, rendre des comptes à la commission des lois du Parlement, soit du Sénat, soit, soit de l'Assemblée nationale. Et je trouve que c'est une dimension qui manque en France,
on est
par
d'accord.
rapport notamment aux autres pays européens.
On est d'accord, en tout cas, en un mot, Pascal Perrineau, qu'il faut un électrochoc maintenant après cette
tout
crise,
à fait, tout à fait.
Cette double crise qu'on vient de subir.
La police ne peut pas se permettre, j'allais dire, tous les deux ou trois mois, d'avoir une attitude de la part d'éléments extrêmement minoritaires.
Bien
je suis sûr de la police de ce type. Ça va lui coûter cher en tant que corps. Or, nous sommes dans une période de multiplication de crises. Crise de la Covid, crise sanitaire, crise sociale, crise économique, crise politique. On a besoin de forces de l'ordre qui soient légitimes, respectées et qui fonctionnent.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. 18h56, on se retrouve dans un instant avec le journal et le débat du Club des idées. Les cadres sont-ils heureux au travail ? On en parlera avec nos invités. À tout de suite.